Europe 1. Qui aurait cru qu'un coup de ciseau pouvait révolutionner la vie des femmes ? En 1889, Herminie Cadol, corsetière française installée à Buenos Aires, invente le soutien-gorge en découpant un corset. Avant d'en arriver à ce geste émancipateur, Herminie Cadol a été une communarde et une militante en faveur des droits des ouvriers. C'est l'histoire de cette pionnière du féminisme peu connue aujourd'hui que je vais vous raconter dans un récit en deux épisodes en partenariat avec Madame Figaro. Je suis Virginie Giraud, votre guide au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Herminie Cadol, l'anarchiste qui a inventé le soutien-gorge. Épisode 1. Une corsetière communarde. Nous sommes à Paris le 27 juin 1889. Depuis le 15 mai, la 10e exposition universelle a ouvert ses portes. Cette année, son thème est la Révolution française, puisqu'on en fête le centenaire. La France républicaine veut montrer au monde qu'elle est à la pointe du progrès et de la technologie. Le pays souhaite mettre en avant les richesses tirées de ses colonies et son excellence dans le travail d'un nouveau matériau de construction, le fer. Du Trocadéro aux Invalides, on compte presque 62 000 exposants prêts à faire découvrir leur savoir-faire aux 32 millions de visiteurs qui parcourront cet événement exceptionnel. Les pavillons construits pour l'occasion sont des merveilles. Quel dommage de devoir les détruire. On y expose des œuvres d'art, des objets artisanaux, des machines industrielles, tout pourvu que ce soit révolutionnaire. Pour voir la pièce maîtresse de l'exposition, il suffit de lever les yeux. La tour Eiffel culmine à plus de 300 mètres. C'est un chef-d'œuvre de dentelle de métal peint en rouge. Et pas très loin de la Dame de Fer, qui ne sera finalement jamais démontée, il y a une autre dame au caractère bien trempé. Elle s'appelle Herminie Cadol. Elle a 46 ans et dans sa petite échoppe, cette corsetière présente sa nouvelle invention. Le corselet-gorge. Comment ça, vous ne savez pas ce que c'est ? C'est parce que c'est tout nouveau, je vais vous expliquer. Vous voyez, c'est comme les corsets que vous portez, ou que votre femme porte, mais il est coupé sous la poitrine. Le ventre est libéré. On peut bouger librement de gauche à droite, se pencher dans toutes les directions. Et pour que ça soutienne quand même bien les seins, on a ajouté des bretelles. Ah si, je vous le dis, c'est révolutionnaire. Ça va changer la vie des femmes, vous verrez. Est-ce que quand on est fille de couvreur, on est prédestinée à découvrir le corps des femmes ? Quand elle voit le jour à Beaugency, dans le Loiret, en 1842, Herminie Cadol s'appelle Eugénie Sardon. Elle vient d'une modeste famille d'ouvriers. Eugénie n'a pas grand-chose à espérer de la vie. Mais voilà, elle a un gros caractère et elle est habile de ses doigts. Elle pourrait être une simple cousette, mais elle préfère les pièces compliquées à monter, comme les gilets et les corsets. Il faut couper des morceaux de tissu aux formes complexes, les assembler avec précision, leur permettre d'épouser le corps de leur propriétaire, sans les étouffer pour les hommes, et en les étouffant bien pour les femmes. C'est un peu plus compliqué que de coudre l'ourlet d'un rideau. À 18 ans, Eugénie épouse Ernest-Philippe Cadol, un ouvrier peintre. À partir de maintenant, si vous le permettez, on l'appellera par son nom de scène, Herminie Cadol. Le couple a un fils à qui il donne le joli nom d'Alcide Ernest. Comme beaucoup d'ouvriers, le jeune couple Cadol rêve de la capitale. L'industrie s'y développe avec de nouvelles usines et des ateliers tenus par la nouvelle aristocratie, la bourgeoisie d'affaires. Depuis 20 ans, les crises à répétition poussent les paysans à rejoindre les villes pour louer leur force de travail aux nouveaux patrons. C'est l'exode rural. Herminie doit se dire que dans ce contexte où tout va si vite, si on est un peu malin, une corsetière peut aussi devenir patronne. Qui sait ? Au milieu des années 1860, le couple Cadol s'installe donc à Paris, dans le quartier de la Villette, rue d'Aubervilliers. Ce quartier, c'est pas la joie. C'est une zone très populaire, fraîchement rattachée à Paris. Il y a plein de nouveaux hangars, des habitations insalubres, des ouvriers épuisés et qui dépensent souvent leurs maigres revenus dans l'alcool. Mais ce n'est pas le cas du couple Cadol. Ernest Philippe trouve facilement un travail dans le bâtiment alors que Paris est en plein réaménagement haussmannien. Herminie, elle, est employée comme giletière et corsetière dans un atelier de confection. Ces années sont sans doute difficiles. Les travailleurs n'ont alors presque aucun droit. En 1867, le philosophe et économiste allemand Karl Marx écrit « Le Capital », qui entend dénoncer ce nouveau système qui exploite les travailleurs au profit des bourgeois, le capitalisme. Difficile de dire si Hermine Cadol a tout de suite connaissance de ce livre parce qu'une série de drames va maintenant bousculer sa vie. Napoléon III est entré en guerre contre la Prusse. La défaite de Sedan, le 1er septembre 1870, se solde par son abdication. Le 4 septembre voit naître la Troisième République. Mais pour l'heure, elle est totalement désorganisée, parce que l'urgence, ce n'est pas d'élire de nouveaux députés, mais de poursuivre la guerre contre les Prussiens qui avancent vers Paris. Du 17 septembre 1870 au 28 janvier 1871, Paris est assiégé. Le froid est terrible, avec des pics à moins 12 degrés. On brûle les meubles pour se chauffer, mais ça encore, ce n'est pas grand-chose, parce qu'en réalité, les gens meurent de faim. Les plus riches s'offrent les animaux du jardin des plantes en gigot. Combien peut coûter un steak d'éléphant, de chameau ou de girafe? Bon, les cartes des restaurants qui les servent n'affichent pas toujours les prix en face de leurs menus extravagants. Les plus pauvres, quant à eux, cuisinent du rat. Une chance parce que on n'en manque pas dans la capitale. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Hermine a certainement mangé du rat pendant ses mois de guerre. Comme le temps n'est plus à la couture et qu'elle refuse l'inactivité, la corsetière fréquente le comité de vigilance des femmes du 18e arrondissement. C'est là qu'elle rencontre la militante qui préside ce cercle féministe. Elle s'appelle Louise Michel. La Vierge Rouge a un visage aux traits ingrats, un peu mou, qui lui donne une impression de passivité totalement à rebours de son caractère. Cette fille naturelle de Nobilio de province parle avec éloquence et passion. Elle est très éduquée, elle a même été enseignante. Hermine et Louise s'entendent à merveille. Elles deviennent amies parce qu'elles ont les mêmes valeurs anarchistes. Mais être anarchiste au XIXe siècle ne signifie pas qu'on déteste sa patrie. Voir le nouveau gouvernement inerte face à la menace prussienne les rend folles. Louise manifeste contre la nouvelle République incapable de se battre. Il semblerait qu'Hermine aussi. Le 28 janvier, enfin, le cessez-le-feu est signé. La France a perdu la guerre. Les Prussiens annexent l'Alsace-Moselle, comme on dit alors, et occupent le Champ de Mars dans un défilé obscène de claquements de bottes et de casques à pointe. Au début du mois de mars, le nouveau gouvernement, déjà humilié par la défaite, s'installe à Versailles pour laisser le champ libre aux Prussiens, alors qu'une partie des Parisiens est déjà prête à se rebeller contre l'occupant. Le 18 mars, alors que Paris est une poudrière, la Commune commence. La capitale sera rouge pendant 2 mois. Rouge d'idées d'extrême gauche et rouge de sang. La Commune est à la fois un refus de la défaite contre les Prussiens et un désaccord sur le fonctionnement de la République. On hésite entre démocratie directe et démocratie représentative, le pouvoir au peuple ou à ses représentants. La Commune de Paris se rêve en petit univers autogéré et farouchement républicain, un exemple pour le reste de la France. Dans ce contexte terrible de guerre civile, Hermine fréquente l'Union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés. Il s'agit d'une des toutes premières associations féministes et ouvrières fondées pendant la Commune. Évidemment, l'association est ouvrière, mais elle est dirigée par des intellectuels plutôt bourgeoises qui ont bien lu Marx. Hermine et son époux participent aux événements de la Commune, aux soulèvements qui opposent les communards et les versaillais, les représentants de l'ordre officiel. Paris est à feu et à sang. Hermine n'est sans doute pas debout sur toutes les barricades, mais son action, dont on connaît mal les détails, est suffisante pour qu'elle se retrouve arrêtée avec son mari. En mai 1872, Ernest Philippe Cadol est condamné à 2 ans de prison et à 10 ans de privation de droits civiques, peine qui sera rapidement réduite de moitié. Hermine est aussi placée en détention. Faute de place à Paris, elle commence à purger sa peine à Rouen. Elle est ensuite déplacée au dépôt des chantiers à Versailles, où se trouve son amie Louise Michel, l'égérie de la Commune, qui poursuivra bientôt sa peine au bagne. Hermine est finalement relâchée au bout de quelques mois, mais Paris est toujours étroitement surveillée par les Versaillais. La corsetière retrouve donc sa liberté dans une ville en pleine crise. Toujours militante, elle prend un poste de trésorière dans une association qui accueille les déportés de retour du bagne de Nouvelle-Calédonie. Évidemment, en 1880, lorsque Louise Michel rentre de ces îles lointaines, Hermine Cadol est là pour l'accueillir aux côtés de Georges Clémenceau en personne. Pendant que le comité « bourgeois », comme elle l'appelle, prend des photos et parle aux journalistes, la corsetière file dans un petit restaurant à Montparnasse qui reçoit les déportés moins médiatiques. Elle s'assure qu'ils aient de quoi manger et se loger. Son militantisme est concret. Herminie est une femme d'action. Elle ne compte pas s'arrêter quand son comité est dissous l'année suivante. Avec son mari et quelques amis, elle en refonde un autre nommé « La solidarité des proscrits de 1871 » dont elle est à nouveau la trésorière. Pour Herminie, aucun ancien communard ne doit rester sur le carreau. C'était ça les idées de la commune. La liberté, l'égalité, mais aussi la fraternité. Tout ça ne devait pas être de vains mots. En 1880, cette même année où Louise Michel rentre de Nouvelle-Calédonie, Herminie va encore avoir des démêlés avec la police. Quelques années plus tôt, pendant la Commune, au comité de vigilance du 18e arrondissement, Herminie Cadol a rencontré Théophile Ferré, un grand militant et anarchiste qui collectionnait les arrestations. Louise Michel était d'ailleurs secrètement amoureuse de ce petit homme à la grosse barbe noire et à la verve cynique. Pendant la Commune, Ferré a été arrêté et pendant son procès, il a invité ses juges à prendre sa tête puisqu'il la voulait. Et puis, il a ajouté « Je confie à l'avenir le soin de ma mémoire et de ma vengeance ». Bon, vous voyez le genre de personnage dont il s'agit. Ferré est finalement fusillé sur le plateau de Satory le 28 novembre 1871. Il est ensuite inhumé au cimetière de Levallois-Perret. Donc, en cette année 1880, Herminie Cadol participe à une manifestation sur la tombe de Théophile Ferré, une manifestation interdite par la préfecture de police. Là, sur la tombe de Ferré, Herminie hurle « Ferré, nous honorons ta mémoire, nous te vengerons !» J'aime autant vous dire que cette saillie bravache dans une manifestation interdite plaît assez peu à la police. Herminie et 10 autres prévenus, dont son propre fils de 19 ans, se retrouvent déférés devant le tribunal après un tour en panier à salade. Vous savez, ces fourgons de police à claire-voie qui donnaient l'impression que les détenus étaient des salades dans un panier prêt à être essorés. En arrivant devant les juges, elle en remet une couche en s'écriant « Nous voulons honorer nos morts comme vous voulez honorer les vôtres !» Bon, ça va, c'est pas trop violent. Pour cette fois, les juges sont cléments. Herminie est remise en liberté. Mais elle n'a pas fini de régler ses comptes avec la police. Ce qu'elle s'apprête à faire va avoir l'effet d'une bombe. Dans le second épisode dédié à Herminie Cadol, je vous raconterai comment, après ses démêlés avec la police, la corsetière a fini par inventer le soutien-gorge. À très vite pour la suite de ce récit.